Et donc maintenant qu'on a bien parlé d'Amon et les Hommes, que vous l'avez vu,
et revu,
on va essayer de vous parler un peu de toute la filmographie de donc Sang Soo, qui est vrai est plutôt en un bloc qu'on peut un peu prendre dans tous les sens, comme on le disait. Donc Amon et les Hommes peut être une ouverture, vous pouvez remonter un peu dans sa filmographie. Il y a 15 films, 15 longs-métrages. Enfin, Amon et les Hommes est le 14e, mais il y a déjà Orsoni qui l'a aussi tourné cette année et qui a eu un prix à Locarno et qui devrait certainement arriver début 2014 en France puisque tous ces films sortent ici.
Et In Another Country a fait d'ailleurs, c'est quasiment une certitude qu'il va sortir parce que In Another Country a fait 70 000 entrées en France et c'est quand même une bonne audience pour un film d'Aung San Suu. Alors que ses précédents avaient fait deux à voire trois fois moins. Donc le fait qu'il soit présenté, qu'il soit multiprimé dans différents festivals, fait qu'il a un petit peu la cote en ce moment. Et c'est vrai que depuis 3-4 ans, il tourne un peu comme à la Mickey. Sauf que voilà, il y a de la qualité dans ses films, contrairement aux cinéastes japonais.
Ouais, j'ai l'impression qu'il suit le chemin inverse de Mickey. C'est-à-dire que Takashi Mickey va vers des studios et fait des films de plus en plus officiels.
Des
films de commande en venant du V-cinéma et des trucs... Alors que Aung San Suu, lui, je disais tout à l'heure, s'extrait vraiment de l'industrie du cinéma coréen, quoi. Et d'ailleurs, y a de plus en plus de rapports, notamment avec la France. Une des premières thématiques qu'on va aborder, c'est la question des... Alors, je ne sais pas si on veut parler d'influence. Moi, je reparlerai du terme d'influence, mais en tout cas de connexion qu'il peut y avoir. Et Aung San Suu est souvent comparé à Romer, au point qu'on parle du Romer coréen pour Aung San Suu. Est-ce que, par exemple, Sidi, tu es d'accord avec cette formulation ou en tout cas, est-ce que tu vois des liens entre les deux univers?
Ouais, c'est vrai que quand j'ai découvert son cinéma, c'est vrai que dans la cinéphilie, on a un petit peu tendance à avoir besoin de s'appuyer sur certaines références, sur certains anciens, excusez-moi. Donc tel film va être d'inspiration truffaldienne, tel film va être le film du nouveau Godard. Et c'est vrai que lorsqu'on a découvert Aung San Suu il y a à peu près 15 ans, lors de la sortie du
C'était
jour,
2003, ouais. Jour le
ouais, donc il y a 10 ans.
Finalement, c'est que 10 ans.
Ouais. Lors de la sortie combinée de ces trois premiers films, Le jour où le cochon est tombé dans le puits, Le pouvoir de la province de Kangwon et La Vierge mise à nu par ses prétendants, on a commencé effectivement par le comparer à Eric Rohmer, notamment à cause de ses histoires de voyage sentimental, hein. C'est-à-dire des personnages qui parlent en intérieur ou en extérieur de ce qu'ils cachent véritablement, de leurs intentions et de leurs sentiments, ces histoires d'hommes et de femmes effectivement, donc voilà. Maintenant, à force, je me dis que ça devient aussi une facilité, dans le sens où si effectivement ce cinéma a quelque chose de la musicalité romérienne, je le trouve au final peut-être un petit peu plus tordu que le cinéma d'Eric Rohmer, qui pour moi... Ouais, c'est... Tu veux dire ?
Non, j'allais dire justement, en ayant revu Night and Day, qui se passe en été à Paris, on pourrait dire que c'est son conte d'été, mais il y a vraiment un côté plus tordu, plus oppressant que chez Rohmer, qui est quand même plus lisse, même quand c'est un peu noir, quoi, comme...
Bah c'est ça, c'est le cinéma d'Eric Rohmer, même s'il y a un véritable cheminement entre le début et la fin, reste, à mon sens en tout cas, très lisible, de bout en bout. C'est-à-dire que lorsqu'un film d'Eric Rohmer se termine, je crois qu'il ne reste plus de grandes questions. Tout a été résolu. Voilà, les personnages se sont rendus compte de ce qui les animait depuis le début. Il y a une sorte de miracle, un deus ex machina qui tombe et le film peut se terminer.
Et une résolution, ouais.
Voilà.
Alors qu'il y a une indécision constante chez Aung San Suu.
Chez Aung San Suu, c'est ça. Il y a toujours ce sentiment de piétinement qui fait que, même si on a le sentiment que le personnage est arrivé à ses fins, on n'est pas à l'abri de se demander si ce qui s'est passé, c'est justement dû à ces questions d'entremêlement de rêve et de réel, qui font qu'on n'est jamais totalement sûr que le personnage n'est pas simplement fantasmé ce qu'il a vécu. Et un film entier pourrait être finalement un simple fantasme. Voilà, notamment ce dernier film, Ewan et les Hommes, qui se termine par un véritable point de suspension.
Donc on avait parlé de spoiler tout à l'heure, mais donc là, vu qu'on n'a pas annoncé de spoiler,
Vous n'avez pas vu le film, tant pis pour vous.
Elle meurt à la fin, bon...
Mais effectivement, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Et c'est la raison pour laquelle Romère m'a toujours semblé un peu une fausse référence, enfin une référence de, un peu superficielle et thématique, alors que je l'ai toujours trouvé plus proche d'Alain René. Et notamment l'Alain René de Je t'aime, je t'aime, où il y a cette indécision, enfin il y a ces mêmes questionnements sur les rapports amoureux, en même temps de Je t'aime, je t'aime, ou même de Smoking, No Smoking, où il y a un jeu structurel qui est extrêmement important, qui parle donc des rapports sentimentaux entre les humains, mais, enfin entre les hommes et les femmes, mais c'est aussi encadré par quelque chose de... Bah de plus d'un peu plus technique, on va dire, c'est-à-dire chez Hong Sang-soo, ça va être ce passage du rêve à la réalité, le fait qu'on retrouve toujours les mêmes lieux, qu'on répète les mêmes scènes plusieurs fois, et ça peut être des propositions de cinéma qu'on retrouve dans Smoking No Smoking. Donc c'est un film qui montre ce qui se passe lorsqu'un personnage prend une cigarette et lorsqu'un personnage refuse une cigarette, et qui montre tous les multiples possibles à partir de cet élément premier, où Je t'aime, je t'aime, c'est un personnage qui va se retrouver dans une machine à voyager dans le temps et va revivre une histoire d'amour qu'il a vécue. Et donc il y a cette idée aussi de répétition qu'on trouve chez Alain René, avec ces propositions de cinéma qui sont extrêmement fortes formellement et qui sous-tendent ces thématiques donc des rapports amoureux.
Donc il y aurait quelque chose de superficiel dans ce croisement cinéphile Romère-Hong Sang-soo ? À bien y réfléchir.
Ça me semble très de surface, ouais. Ouais, c'est ça, comme ouais. C'est-à-dire c'est un rapprochement qui est d'ordre thématique, mais finalement des cinéastes qui étudient, qui filment le dialogue et qui étudient les rapports amoureux, il y en a des centaines. Enfin, il n'y a pas que Romère et Hong Sang-soo.
Voilà. C'est un peu facile, quoi. Ouais.
Donc voilà, ne rejetons pas totalement effectivement cette comparaison, mais je pense que depuis et surtout que maintenant. On a eu l'occasion de voir assez de films de Hong Sang-soo. Je pense que l'on peut le libérer un petit peu de ce poids-là. Et on peut partir presque à zéro.
Il a son propre style, quoi.
Exactement.
C'est Hong Sang-soo-esque.
Donc voilà. Après nous, après ce podcast, plus aucun critique ne peut dire que Hong Sang-soo
est
le Romère.
Il est interdit de comparer. Voilà.
Mais oui, c'est vrai que je parlais de Larry David tout à l'heure, qui formellement a rien à voir avec Hong Sang-soo, qui fait de la télévision américaine, c'est le créateur de Seinfeld et de Curb Your Enthusiasm. Et pourtant, je vois autant de relations entre Larry David et Hong Sang-soo dans le traitement des thématiques et la manière dont c'est fait qu'avec Romère, quoi. Donc après, la référence est peut-être pas du même, forcément, du même niveau culturel.
Maintenant, partons de la piste Larry David, pourquoi pas.
Non mais c'est ouais. J'ai déjà un peu évoqué tout à l'heure, ouais. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de choses de cinéastes et de références qui peuvent se télescoper. À savoir si c'est un peu une facilité, on peut parler aussi d'Woody Allen dans cet aspect justement de construction d'une œuvre complète dont chaque élément est plus une partie d'un tout qu'un tout en lui-même. Enfin moi c'est un peu comme ça que je vois l'œuvre de Woody Allen.
Le Blue Jasmine c'est exactement ça.
Son dernier, ouais. Donc qui prend sens avec des références à d'autres de ses films. Ou Louise Buñuel, notamment Louise Buñuel de la dernière période, cet obscur objet du désir, où il y a un retour, pour Buñuel, du surréalisme qui est affirmé. Chez Hong Sang-soo, c'est un surréalisme qui est distant. C'est-à-dire qu'on peut prendre l'exemple de Night and Day, parce que c'est là où c'est assez subtil. Il y a souvent un plan, et il le fait dans beaucoup de ses films, où le personnage s'endort, on le voit dormir. Il y a une rupture qui est très brusque, mais en même temps, tous ses raccords sont très brusques. Donc on passe à une autre scène. Et il y a quelque chose d'un petit peu décalé, d'un petit peu dérangeant dans cette scène. Enfin, un élément qui va pas aller, un trait de caractère de personnage qui ne va pas être tout à fait comme on l'imaginait, comme il était montré avant. Et finalement, la scène coupe. Et on voit le personnage qui était en train de dormir, comme sur le plan précédent, qui se réveille. Et en fait, en jouant là-dessus, il y a cette idée qu'on ne sait jamais dans quel niveau de réalité on est. Et Night and Day, c'est le film s'appelle Night and Day, puisque un personnage, un Coréen, se retrouve à Paris, et il n'arrive plus à faire... le soleil se couchant très tard, et la nuit arrivant assez tard en France par rapport à la Corée... il dit qu'il n'arrive plus à distinguer le jour et la nuit, donc ça passe d'un truc très quotidien, mais finalement cette indistinction entre le jour et la nuit, qui va être une indistinction entre l'état de rêve et l'état de veille, va se retrouver dans tous ces films. Donc, je dirais presque tous ces films pourraient s'appeler Night and Day, Et ça va un petit peu plus loin, justement, quand je parlais de Louise Buñuel, c'est une indistinction entre le réel, puisque c'est un cinéma qui est quand même hyper réaliste, et le surréalisme, où le réel, tout d'un coup, va se faire légèrement étrange, bizarre, on va plus tout à fait le reconnaître, tout en étant exactement dans la même manière de le montrer que quand on était dans le réalisme, et donc on entre dans le surréalisme. Et je vais un peu vous laisser parler parce qu'il y a Julien qui est mort de regard.
J'allais balancer le monologue de Victor.
Ce serait, disons, un surréalisme à minima, c'est ça. C'est une petite différence dans le détail, vraiment, qui pourrait se faire se poser des questions sur une scène qui, a priori, était exposée comme... une scène qui se raccordait parfaitement avec le cours naturel de la vie d'un personnage. Pas simplement dans le dernier One and His Own, mais presque généralement. Peut-être de manière plus fine que dans ses premiers films, d'ailleurs, même si je ne les ai pas revus depuis. Mais j'ai l'impression qu'effectivement, dans sa dernière ligne un petit peu pauvre, enfin, pauvre au niveau... modeste.
On parlait d'une ligne modeste.
Il y a une manière, effectivement, d'instiller ici et là des petits décalages qui font s'interroger le spectateur... sur la potentialité d'une sortie de route. Voilà. Tu veux dire quelque chose, Julien? C'est vrai qu'on parle beaucoup.
Ah bah, c'est vrai que c'est vous les deux spécialistes. Hein. Moi, je remonte juste une petite évolution dans l'ensemble de la filmographie de Hong Sang-soo. Ça va intéresser nos chers amis lecteurs parce que c'est sur le plan sexuel. Et qu'on peut regarder, on peut constater dans ses premiers...
On perdait de l'audience. Là,
ça a remonté. Là, on double. Donc, en parlant un peu de cul, c'est intéressant quand même. Et on peut constater dans ses premiers métrages que les scènes de sexe sont filmées de manière très crue, de face. Sans vraiment pas de couverture, tout est vraiment voilà, tous les protagonistes sont tous nus, et que petit à petit ils vont lentement, en fait déjà ça va être de manière filmée de plus en plus moins de bestialité, on va dire, en tout cas bestialité au niveau de la forme, mais le dialogue lui reste encore assez cru. Donc là je fais par exemple à Turning Gate ou Woman on the Beach, ouais. et petit à petit on voit qu'il y a de moins en moins de scènes de nu et de sexe, et que voilà, dans The Day You Have c'est voilà, je crois qu'ils s'embrassent. Dans In Another Country, c'est suggéré avec Isabelle Huppert et l'acteur qui sont sous une tente. Et ici, je crois que voilà, ils se roulent de pelle et puis voilà. Donc, on constate quand même une lente évolution sur ce plan-là, en tout cas, dans la filmographie d'Hong Sang-soo. Et ça revient un petit peu avec la modestie, peut-être, que tu parlais, Sidi, tout à l'heure. C'est-à-dire qu'être un petit peu plus... pas vous montrer forcément le côté beaucoup plus sombre, mais que ça soit voilà, un petit peu plus léger... qu'après tout, voilà, mes 4 ou 5 derniers films sont en tout cas en apparence un petit peu plus... ils sont moins tristes que ses précédents, alors que finalement, dans le fond, c'est quand même aussi profondément triste. Peut-être moins sombre, mais triste, et ça quand même évoque de grandes pistes de réflexion. Bon, voilà.
Est-ce qu'on peut parler de pudeur ?
On peut parler de pudeur, c'est vrai.
Par exemple, maintenant, c'est vrai qu'on dit beaucoup un tel couche avec un tel a eu une liaison avec un tel, c'est vrai. Mais voilà, alors je ne sais pas si ça ne l'intéresse plus maintenant de montrer...
Ça, c'est plus romérien que dans ses premiers films, donc pour le...
Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, ça
rend une contradiction.
Ça rend encore plus, pas grotesque, mais ça rend encore plus discutable la comparaison romérienne, puisqu'effectivement, à la base, j'ai pas souvenir qu'Éric Rohmer ait filmé énormément de scènes de sexe. Déjà, voir je crois, des seins dans un film de Rohmer, ça relevait de...
Déjà, le genou, c'est
déjà... Voilà, déjà, donc voilà. mais c'est vrai que c'est étrange... Je pense pas que Hong Sang-soo soit devenu pudibond, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il a l'air de s'intéresser davantage à cette question de la fréquentation. Je ne parlerai pas d'amour courtois, mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est ça. C'est une question de rendez-vous, de retrouvailles, de séparation, de rupture, de déclaration. Il y a de belles déclarations, notamment dans ce dernier film.
Un petit peu de romantisme.
Oui, c'est ça. Et en même temps, ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir ensuite effectivement un retour de crudité à travers les mots, à travers le comportement d'un personnage. Et puis aussi cette manière d'hypersensibiliser les hommes. C'est-à-dire qu'il montre des hommes qui aujourd'hui ne mettent pas de voile. Enfin, c'est intéressant, ça pose des questions sur la société sud-coréenne. De montrer les hommes dans leur faille même, des hommes qui... assume de ne plus avoir de pouvoir d'une certaine manière sur la femme.
Je verrais ça plutôt comme une contradiction justement par rapport à la société coréenne, c'est qu'Aung San Suu les fait apparaître faibles en fait.
Oui.
Il les fait pleurer. On verra jamais ça dans un contexte social coréen. L'homme dans la Corée comme dans l'Asie, c'est vraiment le maître de la maison, c'est celui qui gouverne. Et la femme, elle, est vraiment, on peut pas dire une esclave, c'est un petit peu cru de dire ça, mais voilà, c'est la femme au foyer, celle qui s'occupe des enfants. Alors que là, en contrario, c'est les femmes qui font vraiment tourner la tête aux hommes, qui eux s'apitoient en fait sur eux-mêmes, entre guillemets, et qui viennent pleurer un petit peu auprès des femmes.
Et sont effectivement très, très lâches. Enfin, alors ils se complaisent dans une sorte de chagrin perpétuel, de mal-être qu'ils peuvent avoir, mais en créant eux-mêmes les situations dans lesquelles ils finissent par s'embourber et finissant par s'en plaindre par la suite. Donc je sais pas, en tout cas, ce sont des portraits d'hommes qui, des portraits de l'espèce humaine, parce qu'il y a peu de personnages féminins à côté. On va peut-être y revenir.
Une petite critique derrière Aung San Suu sur la société coréenne, en montrant justement les hommes sur leur vrai aspect quand ils sont pas face à leurs contraintes sociales.
Ouais, mais ils sont quand même particulièrement pleutres. Et en plus, justement, ils ont, non seulement ils sont pleutres, mais en plus, ils ont aucune. Ils ont juste un statut social qu'ils énoncent. Enfin, c'est vrai que par exemple tous les personnages sont plus ou moins artistes, plus ou moins peintres ou cinéastes sur 9 films sur 10. On voit jamais un extrait de leur film. Ils semblent jamais avoir, même quand ils sont profs à la fac, on ne voit jamais un de leurs cours. Ils semblent juste profiter du statut de cinéaste pour aller dans un festival, pour
dire justement, je me demande si justement, quand Aung San Suu ne fait pas exprès doter ce statut social au niveau des relations avec les femmes. J'ai l'impression que alors, on va vous enlever le. Je vous enlève à vous, les acteurs hommes, votre statut social, et on va voir maintenant, sans ce statut, comment vous allez. Quelle est votre vraie nature auprès de vos relations avec les femmes.
Après, justement, ils l'ont. Ils pourraient se vanter d'être. Il y a une scène dans Night and Day où donc il est peintre. On voit quand même un peu de ses peintures. Il dessine des ciels, apparemment, enfin voilà, juste des paysages. Et il y a une étudiante en beaux-arts qui lui demande: mais qu'est-ce que la peinture pour vous? Qu'est-ce que ça vous évoque? Et il est incapable de répondre. Enfin, il n'y a jamais de discours non plus intellectuel de la part de ces intellectuels qui est censé filmer, qui sont incapables d'avoir le moindre esprit, dans la conversation, même sur leur art et les choses qu'ils sont censés pouvoir maîtriser.
Et d'ailleurs, dans une discussion de Aewon et Esom entre le prof et ses étudiants, il est question de ça, du paradoxe entre les films de leur prof, hein, voilà, qui, si je me souviens bien, étaient contre les intellectuels.
Critiquent les intellectuels.
Voilà, qui critiquaient les intellectuels et le fait qu'ils soient devenus enseignants à l'université.
Ouais.
Donc, il pose un peu cette question à travers la bouche des jeunes, finalement, des jeunes étudiants.
Et bon. Il ne comprend pas, justement. Il pose plusieurs fois qu'est-ce que vous voulez dire. Il ne comprend pas, justement, il ne comprend pas la nuance de la question.
Avance. Il ne comprend pas la nuance de la question, ouais. Mais c'est peut-être une crainte de Aung San Suu lui-même, j'ai l'impression. De devenir ou d'être comme un de ces personnages, de devenir prof à la fac. Pour le coup, le côté, effectivement, il y a des cinéastes, il peut y avoir un côté d'identification. À mon avis, c'est sans doute une fausse piste, ne serait-ce que parce que lui, il est tout le temps en tournage et fait deux films par an, donc je pense qu'il est assez proche, il est assez loin de ces personnages, mais que ces personnages montrent les plus bas aspects de ce qu'il pourrait devenir ou de ce qu'il a peur de devenir, en tout cas. Enfin, je veux pas faire une psychanalyse de Aung San Suu, mais ça me semble.
Mais plus généralement, plus ces films, ils se situent toujours avec des personnages travaillant dans le milieu du cinéma, et il le disait lui-même dans une de ses interviews, c'est qu'il aime travailler dans ce domaine parce que c'est le seul qu'il connaît. Alors je me demande aussi si on pourra analyser aussi un petit peu plus en profondeur, mais si justement c'est pas une sorte d'aveu de faiblesse de ne pas aller explorer d'autres pistes qu'il ne connaît pas et qu'il ne veut pas justement explorer parce qu'il ne les connaît pas.
Mais en même temps, la question du cinéma est anecdotique dans ces films. C'est-à-dire qu'ils ont ce statut de cinéaste ou de prof de cinéma, mais une fois que c'est énoncé, ils n'en parlent presque plus. J'ai pas souvenir d'avoir vu beaucoup de dialogues de films d'Aung San Suu parlant réellement de cinéma. De...
Non, c'est vrai, ils évoquent souvent le statut, mais il y a quand même un lieu géographique dans ces films où ça se passe toujours dans une université. Toujours
il y a une
relation professeur-étudiant. Il est également dans sa vie personnelle, parce qu'il est aussi professeur de cinéma, il me semble. Et voilà, j'ai l'impression qu'il s'auto-enferme lui-même dans ces espaces, dans ces lieux et ces situations, et qu'il se refuse volontairement à explorer d'autres pistes cinématographiques.
Et ce serait un reproche que tu lui ferais ou...
disons que c'est un cercle vicieux qu'il assume volontairement, mais que c'est un petit peu dommage au niveau du spectateur qu'il n'aille pas dans différents genres, qu'il essaie un petit peu d'innover, et justement... C'est pour ça que HSS est très connu pour son effet de répétition. Même s'il y a quelques évolutions, il reste toujours un petit peu dans le confort, entre guillemets, quoi. Donc, c'est pas forcément une critique, mais voilà un constat qui vient de lui-même.